La Bible, parfum de scandale, une émission produite par Radio-FM+, présentée par Babette Soulier-Laporte et Luc-Olivier Bossé.
Voilà, chers auditeurs, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui sur les ondes de FM+, pour cette troisième émission de La Bible, parfum de scandale, Babette,
déjà,
chère Babette.
Déjà.
Alors, derrière le micro, nous accueillons là dans le studio Babette Soulier-Laporte, qui lit la Bible avec toute sa sensibilité aussi, et puis toute son émotion quand on trouve des textes qui nous heurtent, qui nous bouscule, eh bien, il s'agit aussi d'écouter ces résistances qui se font jour en nous. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous retrouvons pour échanger, moi-même, Luc-Olivier Bosset, pasteur de l'Église protestante unie de Montpellier Agglomération. Alors Babette, la Bible, parfum de scandale, tu as eu quelques réactions d'auditeurs, je crois, depuis les deux premières émissions que nous avons faites ensemble.
Oui, merci. Bonjour Luc-Olivier, bonjour tout le monde. Oui, j'ai quelques auditeurs en fait qui m'ont apporté, on avait fait donc deux émissions sur Cain et Abel, et donc il y a eu des références en fait auxquelles je n'avais pas pensé, effectivement, plus modernes, de Hubert Félix Thiéfen, par exemple. Donc, il y a deux chansons, une qui s'appelle Droid Song et une qui est plus précisément, en fait, sur Cain et Abel, la chambre 2023, il y a une référence, et c'était le Cain qu'on avait défini au début comme... La première phrase, c'est « J'étais Cain Junior, le fils de Belzébuth ». Bon, ça fait un peu beaucoup.
Donc, une vision très négative de Cain.
Voilà, on a montré que ce n'était pas du tout ce qu'on pouvait lire, nous, en tout cas. Et ensuite, il y avait aussi un rapport avec les marques, la marque que Dieu faisait sur le front de Cain pour le protéger des jets de pierre, on va dire. Voilà, contre même la lapidation, parce qu'il avait tué son frère. Et beaucoup de gens ont fait le lien avec la marque sur le front de Harry Potter. Qui est en zigzag, qui est apparu la nuit où ses parents ont été tués par Voldemort. Et cette marque qui s'active en même temps que lorsque Voldemort est actif. Et c'est intéressant parce que Voldemort est justement celui dont on ne doit pas dire le nom, ce qui nous rappelle quand même un certain nombre de choses sur le plan de l'hébreu.
Mais ce qu'on voit, c'est qu'au fond, ces références, enfin, cette idée de marque, cette idée de Cain, cet homme meurtrier, dans la malédiction de son geste, le poursuit, on voit que ça continue à nous travailler dans notre inconscient, dans notre culture. Et ça peut être intéressant de voir comment ces signes-là sont repris. Parce que dans Harry Potter, Voldemort, à ce que je sache, c'est pas la même figure que l'Éternel dans les Écritures.
Non, on est d'accord.
c'est plutôt une figure justement de malédiction, de pouvoir. Alors que dans les Écritures, la marque, elle est posée par l'Éternel. Comme un signe qui vient aussi protéger Cain.
Bien sûr. Non, ce qui était intéressant dans Voldemort et Harry Potter, après on s'arrêtera là, mais c'est le lien en fait à la divinité pas à la divinité, mais au surnaturel qui est immédiat, voilà. Mais bien sûr, et c'est signe inversé, on est complètement d'accord, tout à fait. Oui. Et donc après ce premier meurtre fratricide qui était quand même pour moi au début sujet de scandale, avant qu'on m'explique,
on souhaitait. Il y a plus de scandale pour toi maintenant.
Il y en a beaucoup moins. Non, il y en a pas, il y en a plus.
Je pense qu'on n'a pas tout résorbé. Important aussi de rester
bien sûr.
Peut-être choqué par certaines choses du texte.
Tout à fait. Et donc, on a choisi un deuxième texte sur moi, quelque chose qui aussi me scandalise énormément, a priori, comme ça, et émotionnellement, tout simplement. C'est donc la demande que fait Dieu à Abraham de sacrifier son fils unique, son aimé, celui qu'il a eu tant de mal à avoir avec sa femme Sarah, pour donc la grande gloire de Dieu. Et ça paraît un texte qui est, voilà, j'en ai parlé avec quelques futurs auditeurs, j'espère, qui sont aussi très choqués par ce genre de récit.
Qu'est-ce qui te choque? Qu'est-ce qui te choque, toi?
Donc, la première chose, c'est que donc, le sacrifice du fils, de son fils unique, parce qu'Abraham, au fond, a rempli sa part du contrat. Il a fait ce que Dieu lui avait demandé. Il n'a pas démérité. C'est un peu comme Job. Job non plus, il n'a pas vraiment démérité. Hein. Et on se souvient que Sarah a même mis Agar dans le lit d'Abraham pour avoir un fils, parce qu'elle n'arrivait pas, ils n'arrivaient pas à en avoir. Et donc après, ils ont été blessés par, ils ont été bénis par le Seigneur à un âge fort avancé. Hein.
Blessé, c'est presque en anglais. Hein, oui, blessed by the Lord.
C'est tout à fait. C'est un anglicisme. Donc en fait, c'est la première gestation pour autrui quand même que Sarah avait été obligée de faire, dans un sens. Et là, ce fils qui leur naît, qui est la prunelle de leurs yeux, Dieu demande à Abraham de le sacrifier pour, nous dit le texte, enfin on va le lire je suppose, tester la foi, la force de la foi d'Abraham. Je trouve ça, oui, très très choquant. Après, il y a
C'est l'image du Dieu, là, Dieu qui viendrait nous mettre à l'épreuve, qui viendrait au fond, c'est un peu insidieux, c'est un peu...
Oui, hein, tout à fait. Et alors, autre scandale justement, que Dieu ait besoin de tester Abraham. Parce qu'on nous dit que Dieu connaît notre cœur, par cœur. Donc pourquoi avoir besoin de tester quelqu'un? Ça aussi, je trouve ça un peu moins scandaleux, mais quand même étonnant.
Qu'est-ce que ça veut dire sur Dieu? Ça veut dire que s'il sait, pourquoi est-ce qu'il aurait besoin de peut-être écraser l'autre par une épreuve? Parce qu'il peut aussi faillir dans l'épreuve, c'est ça?
Tout à fait, tout à fait. Et alors là, on en tire quoi comme message? Pour nous, c'est pas tellement un message d'espoir.
Non.
Voilà.
En fait, c'est cette image de Dieu qui a derrière ce récit. Hein. C'est un Dieu qui demanderait le sacrifice de l'enfant tellement attendu.
Voilà.
Un Dieu qui serait pervers, quoi, qui viendrait au fond écraser l'autre par une épreuve et puis qui se délecterait de le voir peut-être chuter.
Oui, hein, ça c'est la première... Tu as tout à fait raison. C'est ça, c'est la première facette du scandale. La deuxième facette, c'est Abraham lui-même, qui quand même est un des grands patriarches, on va dire, de l'humanité et de la Bible. Bon, il ment à son fils. Son fils lui demande, et alors, comment on va faire pour là-haut, où est le bélier, où est l'agneau, etc. Dieu, il pourvoira. D'accord, on peut penser que oui, il a cette foi suffisante pour se dire, au fond, Dieu ne va pas me demander ça, et il y aura un miracle, d'une certaine façon. Mais enfin, dans un premier temps, il dit à son fils, porte le bois de ton bûcher. Et
porte ta croix, on pourrait dire.
Porte ta croix, voilà. Et c'est toi qui vas être sur le bûcher, mon fils. Ça, je trouve ça un peu compliqué aussi.
Alors là aussi, quelque chose de pervers dans la relation père-fils, hein, où le père ne dit pas tout. Il voit très bien, il sait très bien la finalité de ce qui va arriver. Et en fait, il le cache à son fils.
Il le cache.
Parce que le fils il n'est pas capable de comprendre. Parce que, et puis justement, s'il le savait, il partirait
en courant.
Donc on le maintient comme ça sous un stade d'infantilisme, quoi.
Et alors, ce qui est étonnant aussi, là, justement, sur Isaac, c'est que, en fait, d'après les calculs de Flavius Joseph, Isaac a 25 ans.
Oui.
Et c'est pas du tout un enfant jeune. Enfin,
ah non, maintenant, jeune. 25 ans, hein, depuis longtemps, on est la majorité. On parle de la majorité à 16 ans dans certains pays.
Absolument, c'est un tanguy, en fait. Et donc, selon les sages du Talmud, apparemment, il a 37 ans. Et alors, ça qui est étonnant aussi, c'est qu'il est plus jeune, il est plus vigoureux que son père. Il pourrait s'échapper lorsqu'il son père le lit sur le bûcher. Il ne le fait pas. Ça fait partie aussi des questions que j'ai trouvées. Est-ce que Isaac est consentant? Ça aussi, c'est scandaleux.
Une victime consentante. Hein. Finalement, une figure d'Isaac qui serait complètement effacée, qui serait soumise, esclave de l'attitude, de l'autorité des parents.
Oui. Hein,
on attendrait de quelqu'un de cet âge-là qui ose s'affronter à ses parents, qui ait une bonne crise d'adolescence, là,
oui,
quand même.
Voilà. Alors, sur ce plan-là, oui. Sur le plan symbolique, est-ce que ce n'est pas une préfiguration christique, justement, et qu'il est prêt au sacrifice de sa propre vie?
Voilà. Alors là aussi, voilà, ça peut interroger, parce que ça voudrait dire que être Christ, c'est se soumettre comme ça, c'est d'être complètement docile, sans un mot, ou d'avoir des questions naïves, et puis même pas aller au bout de son questionnement, parce que c'est vrai que dans le récit, Isaac interpelle son père en disant « Où est l'animal qui va être offert en sacrifice ?» Et après, il dit plus rien. Comme s'il se contentait de la réponse du père. « Non, Isaac, il faudrait que tu te réagis, il faut que tu te révoltes, Isaac
!» D'ailleurs, dans un des tableaux, je crois que c'est celui de Rembrandt, où il se révolte, il a la bouche ouverte pour hurler. Non, c'est pas celui de Rembrandt, c'est celui du Caravage, justement. Là, on voit très très bien, c'est la plus connue, je crois, de scène, où on voit Abraham plaquant la tête de son fils contre le sol, et il a la bouche ouverte pour se plaindre.
Ah oui, et on voit que dans cette bouche ouverte, là, parce que tu me montres l'image, qui est magnifique, effectivement...
C'est un hurlement.
C'est un hurlement. Un hurlement, une révolte. On voit même un peu de la colère. Hein.
Oui, tout à fait.
Ça ne m'étonne pas du Caravage, parce que dans la vie du Caravage, il s'est aussi révolté. C'est il n'a pas été un homme soumis. C'est un homme qui a commis un meurtre, et qui est parti, qui a fui, qui a été condamné.
C'est vrai.
Et le Caravage, je pense que la figure d'Isaac devait aussi l'interpeller. Il se dit, mais ce n'est pas possible qu'Isaac se soit soumis comme ça. Et au fond, cette figure-là d'un jeune qui se révolte, c'est peut-être aujourd'hui tous ces jeunes qu'on voit dans la rue et qui manifestent, qui sont en réaction aussi par rapport à des angoisses et qui les expriment par rapport à des angoisses écologiques. Ils pensent qu'il y a une inaction ou qu'on ne fait pas assez pour le changement climatique. Et du coup, qui se révoltent, qui expriment leur désaccord.
Il y a un conflit générationnel, c'est certain. C'est certain.
Ça fait beaucoup de scandales tout ça.
Est-ce qu'on lit le texte ou...
Mais oui, parce que justement, jusqu'à maintenant, moi j'entends que toutes ces questions, on peut les avoir par rapport à une connaissance qu'on a du texte, par rapport à une connaissance des œuvres qui ont été produites par rapport à ce texte. Mais ce serait intéressant effectivement de le lire.
Revenir au texte.
Donc c'est en Genèse 22, dans le premier livre des Écritures bibliques, Genèse 22, à partir du verset 1. Alors, tu es d'accord que je le lis ?
Bien sûr.
Je lis ce passage. Donc, je vais vous lire dans la version de la Nouvelle Bible Second. « Après cela, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Dieu lui dit, « Abraham !» Il répondit, « Je suis là. » Dieu dit, « Prends ton fils, je te prie, ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac, et va-t'en au pays de Moria, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. » Abraham se leva de bon matin, sella son âne, prit avec lui deux serviteurs et Isaac, son fils. Il fendit du bois pour l'holocauste. Il se mit en route pour le lieu que Dieu lui avait indiqué. Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Abraham dit à ses serviteurs, « Vous, restez ici avec l'âne. Moi et le garçon, nous irons là-haut pour nous prosterner et puis nous reviendrons vers vous. » Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur Isaac, son fils, et il prit lui-même le feu et le couteau. Puis ils continuèrent à marcher ensemble tous les deux. Alors Isaac dit à Abraham, son père, « Père !» Il répondit, « Oui, mon fils. » Isaac reprit, « Le feu et le bois sont là, mais où est l'animal pour l'holocauste ?» Abraham répondit, « Que Dieu voit lui-même quel animal il aura pour holocauste, mon fils. » Et ils continuèrent à marcher ensemble tous les deux. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait indiqué, Abraham y bâtit l'autel et disposa le bois. Il ligota Isaac, son fils, et le mit sur l'autel, par-dessus le bois. Puis Abraham tendit la main, prit le couteau pour immoler son fils. Alors le messager du Seigneur l'appela depuis le ciel en disant « Abraham, Abraham !» Il répondit « Je suis là. » Il dit « Ne porte pas la main sur le garçon et ne lui fais rien. Je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton fils unique. » Abraham leva les yeux et vit par derrière un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Alors Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham appela ce lieu du nom de Adonai Yireh, le Seigneur voit. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne du Seigneur, il sera vu. Le messager du Seigneur appela Abraham une seconde fois depuis le ciel. Il dit, « Je le jure par moi-même, déclaration du Seigneur, parce que tu as fait cela, parce que tu n'as pas refusé ton fils unique, je te bénirai, je multiplierai ta descendance comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est au bord de la mer. Ta descendance prendra possession des villes de ses ennemis. Toutes les nations de la terre se béniront par ta descendance parce que tu m'as écouté. » Abraham revint vers ses serviteurs, et puis ils s'en allèrent ensemble à Bersabée, car Abraham habitait à Bersabée.
Très bien. Quand même. Quand même.
Hein. Quand même.
Voilà. Bon. Je sais pas, pour un premier, peut-être un premier, avant que tu ailles dans le dur, on va dire, peut-être qu'on peut rappeler que dans la Rome antique, l'infanticide était systématique. et chez les peuples sémitiques, apparemment relativement répandu. Le judaïsme officiel a arrêté le sacrifice d'enfants fin 7e et 6e siècle.
Avant Jésus-Christ.
Voilà, évidemment, oui, c'est ce que je cite Levinson. Et même, il est probable qu'on ait sacrifié des enfants à Yahvé. Parce qu'enfin, on disait à Moloch, mais il y a une partie des exégètes juifs qui pensent que Moloch, Melech, roi...
Oui, c'est ça, Yahvé. Le Melech, voilà, c'est le Melech, roi, voilà, et Moloch, c'est les mêmes, la même racine.
Voilà. Il y a un récit mythologique grec aussi qui fait partie de cette constellation de récits. Athamas de Béotie va immoler son fils Phrixos, mais Héraclès, envoyé par Zeus, lui crie de l'épargner. Et il y a un bélier qui apparaît alors, Chrysopholos, qui se traduit par toison d'or d'ailleurs. Ce qui est, bon, ça nous amènerait peut-être un peu loin, mais ça serait intéressant. Donc en fait, est-ce que le dieu d'Abraham, justement, par rapport à la Rome antique, par rapport à tous les autres contextes historiques qu'on connaît et tous les textes qu'on a à connaître, en fait, serait celui qui s'interpose justement pour empêcher et non pas pour prescrire l'infanticide. C'est-à-dire, il y aurait déjà une justification historique,
oui,
pas seulement théologique, on va dire.
Ah oui, je comprends.
Voilà.
Je comprends. En tout cas, ce qui est intéressant quand tu fais ce parallèle avec d'autres récits, c'est de voir que le matériau utilisé par la Bible pour raconter des choses, il n'est pas unique, il n'est pas uniquement, c'est pas une expérience qui aurait été vécue que dans la tradition de ce qui est devenu le peuple d'Israël, mais c'est beaucoup plus universel. Et c'est troublant d'ailleurs de voir que ça nous paraît une évidence pour nous, lecteurs modernes, lectrices modernes, même post-modernes, de se dire mais c'est complètement barbare ces récits. Comment est-il possible qu'un père, d'autant plus un père qui a désiré, qui a aspiré à avoir un fils, comment est-ce qu'il peut en arriver là? Et quand on voit ce fond universel où est mis en scène de tels actes, ça vient quand même nous questionner. Ça vient nous questionner dans, j'ai envie de dire, dans notre désir inconscient. Est-ce que des fois, en tant qu'adulte, en tant que parent, on n'a pas des attitudes qui débouchent sur peut-être l'étouffement de notre progéniture? Leonard Cohen, que tu aimes bien, l'artiste, il a d'ailleurs fait une chanson tout à fait intéressante où, dans cette chanson, il reprend cette histoire de Isaac. Et qu'est-ce qu'il met en parallèle? Il met en parallèle l'État américain qui envoie ses propres fils dans la guerre du Vietnam, en disant, mais vous aussi, vous êtes en train d'envoyer vos fils à l'Holocauste. Et donc, on voit que les parallèles peuvent se faire, parce qu'il y a aussi une part en nous qui est tout à fait troublante, que par moments, on a envie de l'effacer, on a envie de l'oublier. Cette part qui débouche sur, on va dire, le sacrifice de notre progéniture. Et alors, par rapport à ça, je pense que ça nous aide à dépasser notre attitude offusquée de lecteur moderne en disant mais comment est-il possible? Ça nous demande de regarder honnêtement toutes nos pulsions, tout ce qu'on charrie avec nous, qui est en profondeur dans notre inconscient, et de voir notre ambivalence, notre propre ambivalence vis-à-vis des relations que nous tissons autour de nous. Et donc, le fait universel que c'est partagé vient aussi nous aider à non pas se sentir écrasé par ça, mais peut-être à se dire c'est finalement quelque chose qui est partagé, qui est porté par toute l'humanité. Et qu'est-ce qu'on fait de ça? En fait, l'enjeu, c'est ça. C'est sans vouloir se faire des anges, s'imaginer comme étant nous sommes tous
parfait,
des anges,
ouais,
parfaits, acceptons-nous avec notre ambivalence, notre ambiguïté, nos attitudes où non, jamais je ne ferai ça. Et puis en fait, on se retrouve des fois à faire du mal sans que nous le souhaitions. Et donc, d'accepter avec honnêteté tout ça et de voir comment ces textes nous offrent un miroir qui vient nous aider à apprivoiser notre ombre, qui vient nous aider à explorer, en fond, le fond de notre âme humaine, et puis de voir si ça ne peut pas nous aider à clarifier certaines ambivalences que nous portons.
Oui, là, je crois que tu avances vite. On va peut-être écouter « The Story of Isaac » de Cohen maintenant.
Justement, d'accord, très bien.
C'est le bon moment, je crois.
The door it opened slowly. My father, he came in. I was 9 years old. And he stood so tall above me. Blue eyes, they were shining, and his voice was very cold. said I've had a vision, and you know I'm strong and holy. I must do what I've been told. So we started up the mountain. I was running, he was walking, and his axe was made of gold. Well, the trees, they got much smaller. The lake, lady's mirror. We stopped to drink some wine. Then he threw the bottle over, broke a minute later, and he put his hand on mine. Thought I saw an eagle, but it might have been a vulture. I never could decide. Then my father built an altar. He looked once behind his shoulder. He knew I would not hide. You who build the altars now to sacrifice these children, you must not do it anymore. A scheme is not a vision, and you never have been tempted by a demon or a god. You who stand above them now, your hatchets blunt and bloody, you were not there before.
Oui, donc dans cette chanson de Story of Isaac de Cohen, c'est intéressant parce que, évidemment, introduire la guerre du Vietnam et le sacrifice de jeunes hommes par des généraux essentiellement, c'est un peu ce qui s'est dit, ça n'a rien d'un plan divin, c'est uniquement l'absurdité de la guerre et des rapports entre nations. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a la moitié de la chanson est occupée par le sacrifice d'Isaac, et à un moment, donc Abraham a une vision, il monte sur la montagne, ça c'est la même chose, il y a du vin qui n'est pas dans le... Je ne sais pas si ça a été rajouté pour...
C'est Leonard Cohen qui l'a rajouté.
C'est Leonard Cohen qui le rajoute. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'une il parle d'Abraham en disant « He looked once behind his shoulder, he knew I would not hide. » C'est-à-dire, il savait, Abraham, que je ne me cacherais pas, au sens que je ne voulais pas me cacher. Parce que « would », c'est vraiment l'histoire de volition, quoi. Et c'est ça qui est étonnant.
Qu'est-ce qui te dérange, qu'est-ce qui t'étonne là-dedans?
Est-ce que Isaac est juste la victime consentante? Est-ce qu'elle est... il y a eu toutes les interprétations. On parlait du tableau de Rembrandt, il hurle. On parlait de voilà. Quelle est l'attitude d'Isaac face à ce que son père a l'intention de lui faire vivre, apparemment? C'est intéressant.
Tout à fait. Voilà. En fait, là, Isaac est un personnage secondaire. Il est central par rapport au drame qui se joue, mais il est secondaire dans, je crois, dans la manière dont les choses nous sont racontées en Genèse 22. Il est secondaire dans la manière de conduire le récit. On est dans le cycle d'Abraham en Genèse 22. L'histoire d'Isaac, à quelque part dans les Écritures, elle viendra après. Isaac qui s'affirme, qui s'affiche, ça viendra après. Là, pour le coup, ce que je trouve intéressant, c'est que Isaac ne disparaît pas. C'est-à-dire qu'il tient sa place, qui est une place, on va dire, très compliqué. Et il aurait pu prendre la poudre d'escampette. Mais en tenant sa place, je pense qu'il vient faire avancer l'intrigue, qu'il vient faire avancer le drame jusqu'au bout, jusqu'au moment où il y a une sorte de basculement et qui permet une évolution dans la figure centrale du récit, qui est la figure d'Abraham. Parce qu'en fait, l'enjeu de ce récit, on parle toujours du sacrifice d'Isaac. Alors, c'est faux. Le titre qu'on met là, parce qu'il n'y a pas de sacrifice, en fait. Il y a un sacrifice à la fin qui est un sacrifice d'un animal, mais pas de... Et puis on parle d'Isaac, alors que ce n'est pas le cœur du récit. C'est la problématique, le problème là, il est Abraham. Abraham, comment tu vis ta paternité, en gros? Parce que toi qui as quitté ton père, Terah, justement, toi qui as osé franchir certaines limites, là, on a l'impression que cette paternité, elle te revient en pleine figure. Et pour une fois que tu es devenu père, pour une fois que tu as accueilli des enfants, le récit nous montre quoi? Il nous montre que...
avec Ismaël, eh ben finalement, Ismaël, il est renvoyé dans le désert. Donc, Abraham est devenu père. Hein, mais qu'est-ce qu'il fait ? Ça débouche sur quoi ? Ça débouche sur Agar et Ismaël qui sont renvoyés. Mmh. Donc, comme si la paternité d'Abraham, eh bien, elle ne pouvait pas s'épanouir là, avec son fils Ismaël. Et puis là, ce qu'on voit, c'est qu'il n'en reste plus qu'un de ses fils. Mmh. Et qu'est-ce qu'il fait avec ce dernier fils ?
Eh ben, il est prêt à sacrifier.
Il est prêt à sacrifier. Oui. Donc, c'est la paternité d'Abraham qui est en jeu et ce n'est pas la figure d'Isaac. Et heureusement qu'Isaac est là et qu'il tient son rôle et qu'il ne part pas comme Ismaël dans le récit a dû partir parce qu'il vient frotter, il vient être le grain de sable qui empêche Abraham de continuer dans sa manière de vivre la paternité. Isaac tient une place qui est redoutable au risque de sa vie, mais pour que les yeux d'Abraham s'ouvrent. Parce que dans le récit, il y a un verbe qui revient tout le temps, c'est le verbe « voir ». Eh bien, l'enjeu, c'est que Abraham puisse voir et Isaac autrement qu'il ne le voit et qu'il puisse se voir lui-même autrement qu'il ne le voit.
Alors, repartons justement sur la personnalité d'Abraham, parce que justement, je crois que tout ce que tu dis a été l'aboutissement de quelque chose qui est en travail depuis fort longtemps. Il y a certains écrits juifs, hassidiques notamment, qui disent que c'est un test. Tu as employé le mot de test toi aussi, effectivement. Hein. Ce test serait une punition pour Abraham qui a maltraité son fils Ismaël, banni de la maison. Donc un peu, à son tour, Abraham serait puni d'avoir puni Ismaël.
Alors c'est intéressant, simplement je trouve que le terme de punition fait référence à une autorité sévère qui vient, on va dire, recadrer la personne. Je trouve que ça va dans le bon sens, et puis cette idée de punition, je le vois comme quelque chose qui châtie, comme une autorité qui châtie. Or, il me semble que l'image de Dieu là derrière, elle est différente.
Elle est différente.
C'est-à-dire qu'il y a effectivement, je crois que derrière tout ça, il y a l'image d'un Dieu qui éduque, un Dieu éducateur. Oui. Maintenant, en hébreu, le mot qui est traduit sur le verset 1, par exemple, comme épreuve dans nos différentes Bibles, en hébreu, le mot épreuve, le mot utilisé, l'épreuve, il y a un côté de pénibilité, un côté de... Tu parlais, ça peut faire référence aussi à une façon de insidieuse de mettre l'autre à l'épreuve. Ouais. Hein. Et en fait, il y a pas ça dans le terme hébreu. Le terme hébreu serait mieux traduit, me semble-t-il, par le mot test. En disant, c'est comme le scientifique qui teste son hypothèse, qui teste de manière à la vérifier, manière à l'ajuster aussi, de manière à ce que les choses puissent s'améliorer. Oui. Alors, épreuve, on pourrait le garder si on le prend dans une logique éducative de...
un examen.
Un examen à passer, un examen pour voir les connaissances de l'autre, de manière à ce que, sur l'appui de ces connaissances-là, ils puissent aussi aller plus loin.
Oui.
Mais une punition, je pense que c'est comme s'il fallait... on revenait en arrière et tout. Là, moi, je crois que l'histoire, elle avance. Et que l'enjeu, après tout ce qui s'est passé avec Ismaël, l'enjeu, c'est... il faut que la bénédiction, elle continue. Il faut que la bénédiction, elle se développe, elle se réalise pleinement. Et donc, pour cela, il y a des tests. Il faut que Abraham puisse être, on va dire, éprouvé dans sa manière de vivre la paternité. Et donc, qu'il vivent des situations, on va dire, des situations un peu limites, pour qu'il y ait quelque chose qui se dénoue et qui puisse se déployer.
Oui. Et quand tu parles justement de l'éducation d'Abraham, c'est amusant parce que même dans les commentateurs juifs de l'époque, il y en a toute une partie qui disait non, il ne s'agit pas d'un test de loyauté, de test de foi, pas du tout, d'Abraham. En fait, Dieu, c'est Abraham qui ne comprend pas, qui n'a pas compris. Dieu ne demandait qu'un sacrifice symbolique à Abraham, qui a été induit en erreur par son imagination. Donc, il faut qu'Abraham se rende compte de ce qu'on ne lui demande pas à la perfection, de ce qu'on ne lui demande pas à la sainteté, justement, et que on lui demande qu'un... voilà, il y a toute une lignée d'intellectuels rabbiniques qui montrent que, Abraham, en fait, n'a pas compris le niveau de l'enjeu.
Alors... Voilà. Alors,
c'est intéressant, j'ai
trouvé. Oui, c'est très intéressant. Parce que quand on dit n'a pas compris, je crois que la demande en hébreu, elle est ambiguë.
Oui.
Et que nous sommes toujours renvoyés à ça dans notre vie. C'est-à-dire qu'au premier abord, on ne comprend pas. On ne comprend pas bien. Et qu'en fait, tout l'enjeu, c'est de discerner, d'essayer de mieux comprendre. Dans la demande, c'est « Prends ton fils, je te prie, ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac. » et va-t'en au pays de Moria. Et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. Et alors, il y a deux sens qui sont possibles. Le premier, qui est très choquant pour nous, c'est de se dire, mais Dieu demande, et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on en parle dans cette émission à la Bible par fin de scandale, c'est que Dieu demanderait à Abraham de sacrifier son fils dans un rite qui consiste, et c'est l'holocauste, hein, c'est pas n'importe quel rite. Ouais. L'holocauste, à la différence des autres sacrifices, c'est que tout est consommé sur l'autel. Dans les autres sacrifices, dans les autres sacrifices, il y a toujours une part qui est gardée pour que les prêtres, finalement, être prêtre à l'époque, c'était pas des végétariens, c'est-à-dire qu'ils mangeaient, ils pouvaient garder pour eux une partie de la viande. Et puis pour la famille, des fois, quand la famille ou la personne offrait un sacrifice, il y avait aussi une part qui lui revenait.
D'accord. Donc là, holocauste, ça veut dire qu'il n'y a plus rien. D'accord.
Ça veut dire qu'on offre complètement la chose. Ouais. Donc, c'est un sacrifice, on va dire, exigeant, total. Et donc, ça, c'est un premier sens qui serait très choquant pour nous que Dieu demande en holocauste. Ça veut dire qu'il ne peut rien garder pour lui de son fils. Hein. Mais ça nous semble complètement délirant. Et le deuxième sens, c'est, si on écoute bien la demande qu'il y a dans le verset 1, c'est, il y a un tout petit mot qui fait la différence. C'est, prends ton fils, je te prie, ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moria, et là, offre en holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. Et en fait, le deuxième sens, c'est que Dieu demanderait à Abraham d'emmener son fils Isaac avec lui sur une montagne pour, sur cette montagne, là, le fameux là, hein, sur cette montagne, offrir un holocauste. En fait, ce serait la demande de Abraham, enseigne à ton fils à faire des holocaustes. Enseigne à ton fils la crainte de Dieu, la capacité d'offrir quelque chose à Dieu. Et introduis ton fils dans le service du Seigneur. Donc, ce serait une convocation de la part de la demande, là, de la part de la parole, d'une convocation pour qu'Abraham transmette à Isaac, son fils, le sens de l'Éternel.
Oui. Parce que j'ai trouvé aussi, effectivement, que le mot holocauste en hébreu pouvait dire pour monter, c'est-à-dire pour aider la personne à monter. Donc, c'est ce que tu dis, c'est-à-dire que lui, Isaac, se mette aussi au service de Dieu.
C'est ça, et c'est l'idée de élever quelqu'un. Oui. C'est
tout à fait.
Abraham, élève ton fils, c'est-à-dire justement fais-le grandir. Isaac monte, devient pleinement homme et n'est plus simplement le fils de ton père.
Oui.
Devient homme pleinement. Et donc on voit qu'il y a cette. Et alors tout le drame du récit, c'est comment est-ce qu'Abraham comprend? Comment est-ce qu'Abraham comprend tout ça? Parce qu'il y a les deux sens possibles. Nous lecteurs, on sait dès le début que Abraham est mis. Est testé par Dieu. Mais Abraham, il ne le sait pas. Et donc, on est dans une posture, nous, on voit tout, qu'ils lisons, mais on se demande comment Abraham va réagir. Et en fait, tout le récit nous montre que Abraham choisit la première interprétation. C'est-à-dire qu'il comprend la demande comme étant une demande qui, de la part de l'Éternel, de la part du Seigneur, une demande de sacrifier son fils. Et tous les gestes là, qui sont tranquillement annoncés, les uns après les autres, c'est un drame qui s'installe. C'est-à-dire qu'on voit dans tous les détails et nos craintes, nous lecteurs, nos craintes se réalisent parce qu'on voit qu'Abraham choisit la version littérale, mais les deux sont littérales.
Oui, c'est vrai.
Mais la version la plus horrible, et on se dit mais non, Abraham, non. Mais en fait, ce que je trouve intéressant, c'est que on peut se demander là pourquoi est-ce que Dieu demande ça à Abraham. Et qu'est-ce qui va faire basculer la chose? Et je crois qu'il y a quelque chose qui peut nous permettre de faire basculer les choses.
Oui.
Ouais.
Et que tu vas développer. Je voulais juste dire que j'ai fait une petite erreur, en fait, tout à l'heure.
Oui.
Je me suis emmêlé les pinceaux entre le tableau du Caravage et celui de Rembrandt. En fait, c'est celui dans lequel Isaac hurle et ouvre la bouche, c'est celui du Caravage, justement. Il est plaqué vers le sol.
Oui.
Mais ce qui est intéressant, je voudrais juste dire dans le tableau de Rembrandt, parce que ça va avec ce que tu dis, c'est-à-dire cette scène qui se met en place, qui est extrêmement, d'ailleurs, visuelle, spectaculaire, qui rend très bien au cinéma, je suppose. Enfin, dans Rembrandt, Isaac, il y a une première diagonale de gauche à droite, tout en bas, avec le corps d'Isaac dénudé, et la main d'Abraham qui fait une diagonale dans l'autre sens, en fait, donc de droite à gauche, et qui a la main sur le visage de son fils. On ne voit plus le visage. C'est une victime sans visage qu'il se prépare à immoler. Alors, est-ce que bon, ça peut être cohérent avec l'idée, je ne veux même pas me souvenir que c'est mon fils dont il s'agit. C'est possible.
Hein.
Ouais. Ou au contraire, une espèce d'anonymisation.
Ou de mainmise.
Ou de mainmise.
Ou de mainmise sur le visage. C'est-à-dire qu'il écrase le visage de son fils. C'est comme s'il le possédait, son fils.
Il n'a plus de volonté, Isaac.
C'est ça. Ouais. Il n'a plus de volonté. Il annihile la volonté de l'autre.
Ouais.
Et je crois que c'est ça l'enjeu. Mm. Parce que derrière tout ça, il me semble que la problématique, c'est Isaac, c'est un don de Dieu. Et en fait, dans les Écritures, la problématique du don, c'est est-ce que celui qui reçoit le don va s'accaparer le don et en faire sa chose, ou est-ce que celui qui reçoit le don reçoit ce don comme le signe d'une relation. C'est-à-dire que tu m'offres ta montre, hein, et ben, je peux soit me prendre la propriété de cette montre et puis du coup je t'oublie complètement, soit je reçois ça comme un signe de ton envie d'entrer en relation avec moi, et puis c'est une occasion d'approfondir notre relation, parce que quelque chose nous lie, et chaque fois que je regarderai ta montre, la montre qui sera que tu m'auras offerte, et ben je me souviendrai de toi et je me dis ah mais tiens Babette c'est vrai, je m'attendais pas à ce qu'elle me fasse, et puis du coup on entre dans une relation. Et en fait, par rapport à Isaac, je crois qu'il y a le même enjeu. C'est est-ce que Isaac, quand Abraham voit son fils, est-ce qu'il voit sa chose, ou est-ce que quand il voit Isaac, il voit le don qu'il a reçu de l'Éternel et qui est un signe qui l'ouvre à une plus grande compréhension de qui est l'Éternel, de qui est le Seigneur.
Spécialement un enfant.
Et spécialement un enfant.
Ouais, un être vivant et un enfant.
Et c'est ça. Et donc, quand Rembrandt cache le visage, c'est comme s'il voulait montrer qu'il y a une tendance dans Abraham qui choisit de s'approprier le don. Et donc, il vient mettre en avant ce côté problématique. Mais, c'est là que je trouve très intéressant, c'est que la parole de l'Éternel surgit une deuxième fois. Et qu'en fait, elle vient arrêter le geste, elle vient révéler quelque chose, et elle vient révéler peut-être ce qui était encore caché jusqu'à maintenant et qu'il nous faut mettre en lumière.
Et ce qui est étonnant d'ailleurs, justement, tu dis, c'est la parole qui arrête, et c'est le verbe, voilà, dont on a déjà parlé. Et bah, sur ces deux tableaux les plus célèbres, il y a toujours l'ange se sent obligé d'attraper la main d'Abraham.
Oui.
Je trouve que ça affadit un peu le propos.
Et intéressant, ouais.
J'ai trouvé une représentation, au contraire, c'était une fresque de la synagogue de Doura Europos, donc milieu du 3e siècle. Là, il n'y a pas d'arrêt par dans les textes, enfin, ce qui correspond au texte hébreu, il n'y a pas d'arrêt par la main. Il y a effectivement ce respect de la parole, en fait, simplement.
Eh bien, je pense que c'est plus fidèle.
Oui.
C'est beaucoup plus fidèle aux Écritures,
plus
parce
fort,
que Dieu
fort.
Crée par la parole.
Tout à fait.
Et qu'en fait, la parole a de la force, la parole a du poids. Et qu'en fait, dans ce récit, c'est tout à fait ça. C'est la parole qui arrête.
Qui arrête, oui.
Et ce que je trouve très intéressant, c'est que la parole, si on l'écoute bien, eh bien, si on revient au verset 1, il y a deux choses. Il y a le va-t'en. L'expression « va-t'en », tu vois. Eh bien, cette expression, elle se retrouve deux fois, aussi en Genèse 12, quand il est question d'Abraham qui doit quitter son pays.
«
Va-t'en de ton pays et va vers le pays que je te montrerai.
»
Et le « va-t'en » en hébreu, c'est « l'er le ra », c'est-à-dire « lève-toi et va vers toi-même ». Et qu'en fait, l'enjeu qu'il y a là, c'est il y a un enjeu que Abraham, il doit grandir, il doit accéder à une dimension de ses relations aux autres, qu'il n'a pas encore accédé. Et toute la pédagogie de Dieu, c'est de l'emmener vers ça. Et puis, quand il est dit « ton fils, ton unique », ce qui est très intéressant, c'est que « unique », ça se dit « yahid ». Ça peut vouloir signifier aussi « être uni à ». Donc, ce fils qui est uni à toi, ce fils avec lequel tu as un lien très fort que tu veux le garder et que tu veux tellement le garder que tu ne le laisses pas partir. Tu lui mets la main sur le visage, tu l'empêches de respirer, tu l'empêches de grandir.
Il faut qu'il se déprenne de ce fils qu'il chérit trop, qu'il aime trop finalement.
C'est ça. Et vous savez, et tu sais, Babette, qu'en hébreu, l'alliance, on ne dit pas nouer une alliance, on dit trancher une alliance. Et qu'en fait, l'enjeu, c'est qu'il faut que le lien soit tranché, que ce qui unit, ce qui étouffe, soit tranché. Et donc, il y a le couteau du sacrifice qui est là. Mais ce couteau, il faut l'utiliser non pas pour tuer la personne, mais pour trancher le lien. Et alors, si on doit aller rapidement au but, c'est que le lien qui va être tranché, c'est que lorsqu'on... Il reste très peu de temps, donc je vais aller au but. C'est que le bélier qui est derrière, c'est la figure de la paternité qui va être sacrifiée.
Et non l'agneau.
Et le bélier qui est derrière Abraham, c'est-à-dire qui, dans sa vie, est derrière lui et qui est retenu par les cornes dans un buisson. La paternité d'Abraham, la figure paternelle, le bélier, les cornes, c'est le symbole de la puissance. Eh bien, en fait, la paternité vue comme puissance, elle est retenue dans le buisson. Elle est comme emmêlée. Mmh. Et c'est ça qu'il faut trancher pour que Abraham puisse grandir. Et du coup, que Isaac ne soit plus appelé fils. Mais dans le récit, après, Isaac est appelé garçon. C'est-à-dire qu'il est appelé humain, l'homme qui va devenir. Et à la fin du récit, on ne parle plus d'Isaac. Mmh. Isaac, on ne sait plus, il est libre, il est parti vers sa vie, vers lui-même. Abraham continue sa vie vers lui-même aussi. Et Abraham devient fécond, puisqu'après on voit plein de... sa descendance commence à croître, alors que tout allait vers la restriction, la réduction. Après, ça devient un déploiement, une fertilité insondable.
Je crois qu'on va s'arrêter là-dessus. C'est une belle conclusion. Merci beaucoup, Luc.
On n'a pas tout dit, mais on a dit des choses.
Voilà.
Merci beaucoup, Babette.
C'était La Bible, parfum de scandale, à retrouver en podcast, en écoute à la demande ou téléchargement gratuit sur radiofmplus.org.